la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Voilà une musique bien spéciale.
Ah oui, c'est vrai, ça évoque vraiment le sud. C'est un peu lent. On dirait un peu le parler des gens du sud. Bien sûr, on ne parle pas de la Provence. Hein. on parle du sud de l'Amérique, c'est-à-dire de la Nouvelle-Orléans.
C'est tout à fait ça, parce qu'aujourd'hui, nous allons focaliser sur une des plus belles séries de disques qui ait été faite, à mon avis. Qui brille par son unité musicale, justement, unité de conception tout à fait remarquable. Et ça avait été voulu par celui qui en a eu l'idée. L'idée de cette série de disques, de ces enregistrements, est venue dans la tête de Milton Mesereau, Mesereau. Et ce qu'on vient d'entendre là, qui s'appelle Gone Away Blues, c'est le morceau emblématique de cette série. C'est celui qu'il avait en tête, qu'il avait déjà composé à l'époque où il a réfléchi à tout ça. Qui s'appelle Gone Away Blues, le blues de celui qui n'est plus là, qui est parti.
Mais je suppose que qui est parti, ça veut dire qu'il est parti de la Nouvelle-Orléans, alors.
On ne sait pas très
on
bien.
On ne sait pas.
Moi, je pense qu'il pensait à Tommy Lanier, qui était mort, qui était
peut-être aussi.
Une perte terrible pour quelques-uns de ces gens très proches, comme Mez, qui habitait avec Mez. Hein. Tommy Lanier, grand trompette, il est mort, il n'avait même pas 40 ans. Et subitement. Et ça a laissé un vide terrible. Et je pense que s'il avait vécu, Lanier aurait été de tous les disques qu'on va entendre, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et alors l'idée est venue de ces enregistrements, est venue en prison.
En prison.
À Mesereau. Oui, oui.
Alors attendez, il faut que tu me dises, en prison, qui était en prison ?
Mesereau était en prison.
Ah, Mesereau.
Mesereau a souvent été en prison, il faut être honnête. Mesereau était un... il faisait son beaucoup d'affaires avec de l'herbe. Dans les années 20, 30, 40, il s'est beaucoup calmé après d'ailleurs. Il a même été opium, il a été désintoxiqué. Il a eu une histoire absolument extraordinaire, mais il a raconté tout ça dans un bouquin qui s'appelle La rage de vivre.
Ah, oui.
C'est une sacrée tranche de vie. Outre ce bouquin, il existe en livre de poche. La rage de vivre par Milton Mesereau, ça vaut vraiment le déplacement, indépendamment de l'herbe, je veux dire. Hein. Bon. Bref, il était en tôle. Et la première fois qu'il était en tôle, c'était en tant que petit voyou, dans les années 1916 ou 17, parce qu'il était né avec le siècle. Et il a découvert le jazz à travers les chants des prisonniers noirs dans la section noire. Et toute sa vie a été une grande lutte pour devenir un noir, parce qu'en fait, il était blanc comme un cachet d'aspirine, une famille très bourgeoise. Et il était tellement enragé de devenir noir dans cette culture noire qu'il a fini par obtenir une carte d'identité où il y a marqué « race noire ». Comme ça, quand il allait en tôle, il allait avec les noirs directement, il faisait de la musique avec eux, et il était bien content, voilà, à peu près.
Mais ça ne lui posait pas des problèmes parce
si,
que
beaucoup, mais
À l'époque, les hôtels pour blancs étaient souvent relativement corrects, les hôtels pour noirs, c'était pas génial.
Non,
hein.
Il n'est jamais allé dans le sud, et il s'en foutait complètement.
C'était pas
lui, c'était ses frères. Comme ça. Alors voilà, il était donc en prison et il a l'occasion d'entendre en prison le disque qu'on a passé la dernière fois, la dernière émission de Sidney Bechet, où Sidney Bechet joue tout un tas d'instruments à la fois. Et c'est un vrai choc. Il se dit, voilà un type qui joue de tout à la fois parce qu'il n'y a plus personne pour jouer avec lui, parce que la vraie musique de la Nouvelle-Orléans fout le camp. Et là, eh ben, il se retrouve lui-même, il joue de tout et comme ça, il a rassemblé toutes ses idées. Et moi, ce que je voudrais, dit-il en suivant sa méditation, c'est rassembler quelques personnes capables de jouer dans une totale unité de style cette musique-là, et c'est une sorte de retour aux sources. Voilà.
Alors c'est intéressant parce que finalement, Mesereau, c'est un homme du Nord.
Oui.
Et tout d'un coup, il se rend compte que le Sud, c'est le berceau du jazz. Enfin, je suppose qu'il le savait déjà.
Ah oui, oui.
Mais il le ressent tellement violemment qu'il a absolument besoin de faire une série de...
Non. Il y pense. Il voudrait que ça existe. On va voir après comment ça a existé.
Donc, dans sa tête, le Sud, c'est vraiment... où la musique du Sud, c'est la base.
Voilà. Et d'ailleurs, la deuxième composition à laquelle il pense à ce moment-là s'appelle « Out of the Galleon », c'est « Hors de la galère », ça rejoint l'esclavage. Et c'est tout à fait du même tonneau. Et d'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble.
Thank you.
Alors, on trouve dans le livre de Mézereau une trace de ça. Il dit « Je pensais beaucoup à Bécher cette nuit-là, surtout à mon émotion quand j'avais enregistré avec Tommy Ladnier et lui. » Ça, c'est les séances avec Hugues Panassier qu'on a entendues précédemment. « Je repontais le dortoir, échafaudant toutes sortes de projets musicaux auxquels on pourrait s'attaquer tous les deux à ma sortie de tôle. À ce moment, le besoin de rejouer et de réenregistrer avec lui me tenaillait si fort que j'en avais mal au ventre. Lui et moi, on poursuivait le même but, on tendait vers les mêmes trames riches et expressives, la même plénitude harmonique. Il fallait absolument qu'on retravaille ensemble, et cette fois je m'en tirerais mieux. Brusquement, je me rappelais mon Gonaway Blues, ce qu'il nous fallait, je l'avais sous la main, rien ne pouvait mieux cadrer. On enregistrerait mon blues sans le moindre solo, sans que l'orgueil artistique ait la moindre place, on pousserait notre complainte jusqu'au bout, parfaitement unis par l'esprit d'équipe. C'était au poil pour nous, j'en étais plus convaincu que jamais. Cette perspective m'enthousiasmait. Le bon vieux Sidney Bechet était mon coéquipier naturel, si vous voulez, bien de moi. Voilà, il manquait plus que l'argent.
Alors oui, comment est-ce qu'a-t-il fait ?
Et ben là, on est en 42. Et imagine-toi que...
Parce qu'il n'avait pas d'argent du tout, il était d'ailleurs...
Ah non, il était totalement fouché. Et il est resté pendant un certain temps dans une boîte très connue qui s'appelle Jimmy Ryan, dans la 52e rue à New York, en trio. Et un beau jour, il a vu arriver un jeune amateur de jazz qui venait tous les soirs l'écouter, qui aimait beaucoup ça. En fait, le type était un inventeur qui avait commercialisé une invention dérivée du radar. À l'époque, on était en pleine guerre, donc ça marchait le tonnerre au point de vue finance. Il avait beaucoup d'argent, une sorte de mécène. Et il lui a dit... Nous avons les mêmes idées. Pourquoi ne montrez pas une affaire d'enregistrement, vous et moi, avec mon associé, on mettrait l'argent, vous seriez le directeur musical.
Alors, voilà. Ça, c'est le genre de rêve que tout...
Ah non, c'est fantastique, ça tombe du ciel.
Tout musicien a dans sa tête un jour de trouver le mécène qui lui dit « Je vous donne l'argent. »
Eh bien, exactement.
Et vous n'avez qu'à faire de la musique.
Eh bien, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, Mez s'est retrouvé. Alors, il raconte ça de manière très amusante, parce que lui, c'était quand même l'empereur de la bohème, hein, Mezereau. Et il se retrouve président de la société, avec fauteuil, bureau, employé, bulletin de salaire, comptable.
Ah, peste.
voyageur de commerce,
il
etc.
Il ne s'était jamais vu comme ça.
Non, pas du tout. Et la marque s'appelle King Jazz.
King Jazz.
King Jazz, en toute simplicité. Ça s'appelle King Jazz. Et lui, il est totalement couvert par les deux autres, qui lui donnent ce qu'il faut pour qu'il travaille. Les deux autres, ils sont fous de sa musique. Il a toujours raison, ce qu'il veut. Et ils ont raison de lui faire confiance, parce que, contrairement à la plupart des musiciens, il a un vrai projet.
Voilà. Bon.
Il a un vrai projet, qu'on a lu tout à l'heure. Il veut retrouver quelque chose de la pureté originelle.
De l'esprit.
De l'esprit où les gens sont exactement en phase.
Font l'esprit du Sud.
Voilà. Et en phase, dans cet esprit-là. Et il a bien raison, parce que c'est comme ça qu'on peut développer une bonne synergie. Il faut que les gens soient complètement en phase. Il y a très, très peu d'orchestres où les gens sont comme ça. Complètement les uns pour les autres et les uns autour.
Complémentaires.
Voilà. Et ça va vraiment être une série absolument géniale. Alors lui, la toute première séance, il pense d'abord trompettiste. Il fait venir Lips Page, qui est un très grand trompettiste, qui sait chanter le blues, qui est totalement dans le coup pour faire ce genre de truc. Et voilà ce que ça donne, leur première séance d'enregistrement. Ça s'appelle « House Party ».
Thank you.
c'est des tempos qui sont très particuliers, hein, des tempos moyens lents.
Oui.
Qui semble très propre au blues, finalement.
Eh bien oui, c'est du blues. Depuis le début, d'ailleurs, c'est du blues. Parce qu'il faut savoir, le blues, c'est la base de tout, quand même. Hein. Et là, ils sont complètement dans leur élément, immergés jusqu'au menton, comme dans un bayou. Hein, tu sais, c'est le moment où on ne sait plus très bien où est la végétation terrestre, la végétation maritime, où tout se mélange complètement dans un univers tellement richissime. Pas très éclairé, où il y a beaucoup de non-dits. Mentalement, le blues joué comme ça et le bayou, c'est une bonne incarnation, hein, je trouve. Alors, et d'ailleurs, comme ils ont le souci de
l'authenticité,
et puis de bien recentrer les choses, ils ont trouvé un chanteur de blues de Nouvelle-Orléans qui s'appelle Cousin Joe, Pleasant Joseph, ça dépend des moments. Un type absolument charmant, d'ailleurs, que j'ai interviewé une fois il y a bien longtemps. J'ai vu comment les chanteurs de blues travaillaient, d'ailleurs, à cette occasion-là, parce qu'ils étaient deux à la fois, avec Clarence Brown et lui. Et ils étaient en train de regarder chacun dans le cahier de paroles de l'autre. Ils avaient un énorme classeur, énorme classeur chacun,
oui,
avec
que
plein de paroles, et ils se farfouillaient, ils se passaient des trucs.
Et c'est vrai que dans le blues... les paroles sont capitales parce que le blues chanté naturellement parce que effectivement il raconte une histoire. Le blues c'est ça, c'est-à-dire on raconte une histoire qui vous est très très proche, qui est personnelle. Au fond, ce sont des poètes, les bluesmen.
Ah mais c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et d'ailleurs généralement ils composent ça eux-mêmes. Hein. Par exemple celui qui nous intéresse là, qu'on va entendre. J'ai travaillé sur les digues, je boulonnais dans l'entrepôt. On me donnait $1 de l'heure, mais quel boulot, une vraie vie de chien. Mon sac à farine est vide, plus de viande, même pas un os. La fille que j'aimais m'a lâché, ainsi que mon dernier dollar. Tout seul sur les digues, sans personne, ça m'a changé, je vous le dis. Être volé, roulé par une femme, c'est du crime au premier degré. Du coup, je chique mon tabac et je crache loin et du sale jus. J'entendrai bien ma bonne femme, mais je sais tellement que ce serait du fou du temps perdu. Ça s'appelle Livy Blues, ça s'appelle, c'est le blues sur les quais. Ben le voilà d'ailleurs.
Went down on the levee, working the levee free yard. I went down on the levee, working in the levee freight yard. They paid $1 now, but the work was so doggone hard. My flour barrel is empty, I didn't even have a bone. My flour barrel is empty, and me, I didn't even have a bone. And my best gal had quit me, and my last dollar had gone. All alone on the levee, sure made a change in me. All alone on the levee, you made a change in me. To be cheated and robbed by another woman is murder in the first degree. So I chew my tobacco and spit down my dirty juice. So I chew my tobacco start my dirty zoo. I would go back to my woman, but I know it ain't no solid use.
On peut qu'être frappé de l'unité totale de pensée musicale de ces gens-là, parce que le trompettiste Lips Page, le clarinettiste, enfin le saxo Bechet, le clarinettiste Mesro, la rythmique, le pianiste, ouais. Tout le monde est dans, totalement avec le chanteur de blues. Ouais. Il parle la même langue, alors totalement, y compris le patois. Là,
alors en plus, tu dis qu'il parle la même langue, mais ce qui est amusant, c'est que. À un moment, on entend la trompette wah-wah,
oui.
Qui fait whoop, 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 comme ça. C'est presque justement une langue. Oh eh là oui. Là, c'est malheureux, oh, quel dommage, oh, quelle horreur,
mais c'est
tout
que,
ce qui m'arrive.
C'est quand on accompagne un blues, on accompagne les paroles du blues et la musique parle aussi des paroles.
C'est ça, et on sent que le trompettiste est derrière tout et qu'il rajoute.
Alors voilà un autre, du même. Ce monde, je ne l'ai pas fabriqué, mais je pourrais le démolir. Et quand je suis à mon boulot, je ne bisse pas les verres bissés, parce que sinon on arrivera au bout du morceau. Et quand je suis à mon boulot, maman, je ne veux pas de bons hommes dans les environs. Mon déjeuner n'est jamais prêt. Mon souper est toujours en retard. Si tu tiens à moi, ma femme, tâche de te décider plus vite. Avec ma côte de porc, tu me serviras des biscuits brûlants et du torboyau avec ma salade. Et n'essaie pas de me maquiller les plats, car je suis l'homme le plus cruel que tu aies jamais rencontré. Car oui, je travaille dans une scierie. Et je couche dans une cabane longue de 6 pieds. Les femmes, j'y pense le jour de ma paye, et je suis bien content comme ça. Voilà, comprenne qui pourra.
My breakfast ain't never ready, and my supper's never on time. If you want me hot, mama, you better join me, make up your mind. Give me hot biscuits with my pork chops, hot liquor with my turnip green. Give me hot biscuits with my pork chops. Give me pot liquor with my turnip green. Don't try to jive me, baby, for I'm the cruelest man you've ever seen. Yes, I'm working on a sawmill, sleeping in a shack about 6 feet wide. I'm working in a sawmill, baby, sleeping in a shack about 6 feet wide. I see my new gal every payday, and I'm perfectly
À propos, ça s'est fait à quelle date?
Eh bien, ça, cette série de disques, elle tient un intervalle assez précis, parce que la première séance, c'est fin juillet 45, et la dernière séance, c'est fin décembre 47. Tout s'est passé entre ces deux dates, et. Quand on en sera à la dernière séance, on pourra voir qu'ils sont drôlement grouillés, parce qu'en 1948 a commencé une grève décrétée par le syndicat des musiciens pour des histoires de fâcherie corporative, si tu veux, qui était d'ailleurs tout à fait justifiée, puisque les gens étaient exploités. Seulement, le résultat a été que interdiction d'enregistrer.
Et ça a duré
pour tous les musiciens.
Et ça a duré longtemps, cette grève?
Ça a duré plus d'un an, presque deux. Et ça a ruiné le jazz. Ça a été une des causes de la ruine du jazz. Le jazz ne s'est jamais relevé de trucs comme ça.
Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours entendu dire qu'en Amérique, les grèves étaient relativement, c'était très très rare, mais qu'elles étaient souvent très violentes.
Ah, c'est terrible. Alors là, ils y sont tenus, on pouvait enregistrer que de la musique chantée, mais pas de la musique orchestrale. Il y en avait déjà une comme ça en 1942, donc ça a été, pour le jazz, ça a été absolument catastrophique. Alors ils sont dépêchés pour terminer donc en 1947.
Parce qu'ils se doutaient que ça allait arriver.
Comme on verra. Alors pour l'instant, on est seulement, on est un mois après la première séance, et Mézereau est bêché pour des raisons qui leur appartiennent. Je ne sais pas très bien pourquoi. Moi, je crois que c'est parce que Lips Page était un extraordinaire trompettiste, mais c'était quand même pas Tommy Ladnier. C'était pas tout à fait Nouvelle-Orléans, peut-être, c'était ça, je sais pas. En tout cas, à partir de là, ils se sont mis en quintette, c'est-à-dire Béchet, saxo-soprano généralement aux clarinettes, Mézereau clarinette, tenant un peu le...
les contre-champs.
Un deuxième rôle quand même.
Oui.
Et puis piano, basse et batterie. Voilà. Alors piano, variable, mais toujours des pianistes plein d'accents comme Sammy Price, Fitz Weston ou Sox Wilson.
À moins que Lips Page ait eu des engagements précédents, ce qui est
peut-être
possible.
Qu'il est allé ailleurs, ça c'est possible. En tout cas, ça reste quintette. Alors, on va entendre un morceau qui s'appelait au départ, un morceau de Mez, Revolutionary Blues. Ça consiste à prendre le blues... Et au moment où on croit que ça va être le blues, de conclure finalement le blues, on passe sur un 32 mesures, c'est un peu du jargon, mais c'est un morceau beaucoup plus long. On module et on part sur autre chose. Et ça donne...
C'est-à-dire on agrandit
oui, complètement.
Le système blues qui est relativement simpliste.
Ah, c'est 12 mesures, les 4 dernières pour conclure. Et au moment où on va conclure,
on passe sur une mesure
différente, puis on revient au blues dans la troisième ligne de mi-mesure. Et pareil, on va reconclure autrement dans la dernière ligne.
Et alors pourquoi révolutionnari ?
Parce que c'était révolutionnaire de jouer le blues comme ça. D'ailleurs, ça ne s'est jamais refait après. Mais les deux compères, là, ils sont comme les doigts de la main, une fois de plus, comme toujours. Revolutionary Blues, que là, ils ont appelé, bizarrement, j'ai jamais su pourquoi, Old School.
Ah bon ?
Old School.
Voilà. Très bien.
La vieille école.
La vieille école. Alors, Alors c'est rigolo parce que finalement, voilà un morceau où il y a à la fois de la, à la fois du blues, donc on ne peut pas être plus traditionnel,
ouais.
Et puis une composition. Alors est-ce qu'il composait beaucoup de choses lui-même ou...
Presque tous les morceaux qui sont dans cette série King Jazz sont des morceaux que Mesro et Bechet ont composés. Pratiquement, enfin, 9 sur 10. Il y aura une exception tout à l'heure qu'on verra, parce qu'ils sont allés rechercher un vieux morceau composé par Clarence Williams, à l'époque de la guerre de 14 peut-être, à Nouvelle-Orléans. Mais par exemple, ce qu'on va entendre maintenant, qui s'appelle Perdido Street Stomp.
C'est eux qui l'ont composé.
C'est eux qui l'ont composé. C'est un morceau tout à fait original. Et alors, c'est un morceau sacrément casse-gueule. On parle souvent de la technique rudimentaire de ces gens-là. Surtout pour Mesro.
Oui, parce que Béchette.
Béchette, c'était autre chose. Mais on chambre souvent Mez parce que, en réalité, c'était un grand flemmard. Et quand il partait en tournée, il se remettait à jouer le jour du premier concert. Il fallait attendre 3-4 jours pour qu'il soit bien en doigts et en lèvres. Et après, la clarinette, ça allait tout seul.
Alors, il ne travaillait pas.
Il ne travaillait pas. Et puis quand il n'y avait pas d'engagement, il ne travaillait pas chez lui, jamais. C'est comme ça. Hein. Alors, évidemment, ça lui a. Elle a fait une réputation difficile. Mais là, dans ce qu'on va entendre, j'invite les clarinettistes. D'ailleurs, c'est très simple. Je crois qu'il y a Maxime Souris qui l'a fait en France, ce morceau-là, qu'il a refait avec Paul Chéron. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, à ma connaissance, pas.
C'est très technique.
Voilà. Et Perdido Street, c'était une rue de Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est Perdido Street Stomp. Ah, erreur, je suis navré, je fais une grosse erreur, ça c'est le morceau suivant.
L'erreur est humaine.
Bon, l'erreur est humaine, nous sommes en direct. Voici quand même, avec toutes mes excuses, Perdido Street Stomp.
Thank you.
C'est un morceau qui n'est fait que de riffs.
Oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on les entend derrière, mais qu'est-ce que c'est les riffs pour ceux qui riff, connaîtraient
pas ? C'est un petit motif musical répétitif et qui est swingé, évidemment, qui est fait pour être swingé, et qui est répétitif et qui souvent est swingé de plus en plus appuyé. Alors là, c'est un morceau riff, quoi. C'est un morceau à riff long, mais après on le reprend sur un autre accord.
C'est un ensemble de notes.
C'est une petite phrase.
Une petite phrase, mais qu'on répète sans arrêt.
Absolument.
Pour donner une sorte de pulsation.
Exactement. Et ça, c'est un morceau qui est fait que de riff. Il n'y a pas de mélodie continue sur 32 mesures. Alors, il n'y a que du riff.
C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que ça pousse le morceau, le riff.
Exactement. Et alors, évidemment, du riff à l'exercice, il n'y a pas loin. Les gens, ils servent aussi des riffs comme exercice, on va y venir après.
Et est-ce que, ça a l'air d'être extraordinairement au point.
Oui.
Est-ce qu'il gravait du premier coup ou est-ce qu'il y avait beaucoup de gravures avant la définitive ?
Alors, ça, c'est un orchestre qui jouait très peu en dehors du studio. Parce que Bechet était très pris à droite à gauche. Et on a peu de... À cette époque-là... Il joue pas très souvent avec Mesro ailleurs, il joue dans d'autres orchestres, dans des boîtes ou ici ou là. Donc c'est un orchestre qui se retrouve pour travailler, pour mettre au point des morceaux, mais à mon avis, ils n'ont pas passé beaucoup de temps, parce qu'ils étaient quand même très forts.
Hein. À travailler.
À travailler ensemble.
Avant d'enregistrer.
Voilà. Mais d'un autre côté, l'avantage du studio qu'ils ont, à mon avis, c'est aussi qu'ils ont le temps de travailler tranquille. Quand on voit la liste des morceaux qu'ils faisaient dans une journée ou deux, c'est trois jours au même endroit sans que ça coûte trop cher, enfin il y a un truc là. Bon. Et Mesro, qui était ulcéré par la disparition des cires des sept, c'est qu'à l'époque, c'était gravé dans des 78 tours, dans de la cire molle avec une aiguille qui gravait. Et si on écoutait ce qu'on avait fait, on détruisait le disque. Il fallait recommencer. Et il y a un nombre astronomique de chefs-d'œuvre qui ont disparu dans la nature comme ça.
Oui, parce qu'il y a une personne qui fait une petite faute, on réécoute.
Pour voir si elle se voit ou pas, mais le disque est foutu.
Mais le disque est fichu.
Alors, évidemment, il faut le refaire après, et on a perdu quelque chose. Comme c'est très improvisé le jazz, d'une prise à l'autre, il va y avoir de très grosses différences.
C'est pas les mêmes choses, forcément.
Alors, voilà. C'est lamentable. Alors, Mesro, il avait horreur de ce genre de choses, donc il n'écoutait pas ce qu'il faisait, et il gardait plusieurs versions. Après quoi, il faisait tout édité.
Et il prenait la meilleure.
Et il écoutait le test pressing, le prototype du pressage, qui lui peut être écouté X fois, et il prenait la meilleure pour publier. Et puis comme ces choses-là sont restées, et bon, on a la joie, quand on réédite la marque King Jazz, d'avoir toutes les versions à la file sur des CD. Voilà, ce qui est quand même bien agréable.
Oui.
J'en connais qui auraient le fait de faire ça depuis le début des gens du jazz. On aurait 4 fois plus de bons disques. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors, ils se sont emparés également, comme on disait tout à l'heure, on a entendu le début, bêtement de ma faute, par erreur, de vieux morceaux de la Nouvelle-Orléans, comme ceux I ain't give nobody none of my jelly roll de Clarence Williams, qui est un vieux machin, qui joue peut-être dans le boxon de luxe de sa tante Lily White pour faire des habillés des demoiselles. On ne sait pas. On peut toujours. Le jazz est la musique. On peut beaucoup fantasmer quand même. Hein. Il y a pas de problème de ce côté-là. Alors le voilà. Ce God Nobody Known. J'en donnerai à personne de mon jelly roll. Et naturellement, on ne traduira pas à cause des enfants qui peuvent nous écouter.
Voilà.
Thank you.
Voilà, une petite faute à la fin d'ailleurs. Tu vois, ça, c'est une version qui n'est. Je crois que ce n'est pas la version officielle, puisqu'il n'a pas gardé à cause de la petite faute à la fin, mais on profite de la belle musique quand même. Oh. Voilà.
Elle est légère.
Oui, c'est vrai.
Il y a quelque chose d'intéressant, c'est le bassiste, là. On n'en a pas parlé, mais il est très présent.
Ah oui, il slappe, c'est-à-dire qu'il fait claquer sa corde contre le manche de la basse. C'est un effet rythmique qui est très Nouvelle-Orléans. Et d'ailleurs, c'est Bob Foster qui est le plus grand bassiste de là-bas, avec un autre qui s'appelle Wellman Broad, et Mez a utilisé les deux. Puis dans le morceau qui vient, on va entendre Broad à la basse. Et là, on avait Kaiser Marshall à la batterie, qui jouait très Nouvelle-Orléans, et on aura encore plus Nouvelle-Orléans, on aura Baby Dots à la batterie. Tous ces morceaux-là, plus Nouvelle-Orléans comme rythmique, on meurt. Là,
parce que là, c'est très assis.
On ne peut pas faire mieux. Oui, on peut pas faire mieux.
Très assis. Est-ce que, finalement, on a l'impression qu'il y a une entente merveilleuse entre ces deux clarinettistes, saxo.
Ah oui, ça, ils s'entendent parfaitement.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même des moments où ces deux personnalités, hein, parce que ce sont des personnalités toutes deux, étaient un peu concurrentielles dans la musique quand même?
Ça, c'est venu plus tard en France, quand ils sont retrouvés en France tous les deux, et que beaucoup de gens ont voyagé pour la poudre et les allumettes, mais là, ce n'était pas le cas. Tout simplement parce que d'abord, Mez était porteur du projet et propriétaire de la marque de disques.
Ah oui, ça c'est très américain,
Mais déjà, il était en situation Ensuite, musicalement parlant, il se tenait totalement à sa place. Il était le second de Bechet qui menait la plupart du temps.
Oui, d'ailleurs, on entend bien que Mesereau fait des contre-champs ou des entoure, mais que celui qui mène,
voilà, exactement.
C'est Bechet.
Et là, Bechet va sortir sa clarinette, parce que ça arrive quelquefois, et ils vont enregistrer un morceau à deux clarinettes qui s'appelle « Breathless Blues ». C'est le blues à en perdre le souffle. Et en fait, le premier mouvement, c'est en perdre le souffle. Tout à fait ça. We'll be right back. Et ça, c'est un exercice au départ.
Ah oui.
Un exercice pour ce...
De clarinette.
Clarinette, les exercices de doigté, c'est très important. Et ça, c'est tout à fait le genre d'exercice. On le sent un peu. D'ailleurs, tu me faisais remarquer qu'il y avait aussi un morceau de musique trad qui ressemble... De musique ouais. d'ici, qui ouais. ressemble...
De clarinettistes auvergnats
qui... ressemble beaucoup à ça. C'est des choses très simples, en fait. Hein. Mais comme tout ce qui est simple et bien fait, c'est vraiment très beau.
Alors, c'était enregistré à New York. Hein,
tout ça, oui, jusqu'ici. Mais les voilà maintenant qui sont pris par le temps parce qu'ils savent que la grève arrive. Ils en ont déjà subi une. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Ils sentent bien qu'ils sont au bout de leur, un petit peu au bout de leur aventure commune. Puis ça fait quand même plus de 2 ans que ça dure. Et là, on est fin décembre 47 et Bechet n'est pas là. Et il prend toute son équipe, mais avec lui, Pops Foster, Kaiser Marshall, le batteur, Sammy Price, le pianiste qui a été le plus présent dans cette série. Et hop, ils foutent tous le camp à Chicago. Et ils retrouvent Bechet qui s'y trouve, lui, engagé tous les jours dans une boîte. Alors ils arrivent à couper quand même par-ci, par-là.
Mais pour faire les enregistrements.
Ils restent 3 jours ensemble.
Et là, terminer.
Mais ils ont vraiment mis le paquet parce qu'ils sont restés 3 jours ensemble et ils ont enregistré 30 disques. C'est 30 fins, hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis ça a quand même des potes. Et ils tenaient, et on voit qu'ils ont mis les choses qui leur tenaient à cœur, ils ont commencé par faire un hommage à Tommy Lanier, qui est très émouvant, parce qu'on entend Mez et Bechet qui parlent de Tommy Lanier au début et qui dédient ce morceau à Tommy Lanier. C'est très très chouette, ça. Et ça s'appelle, naturellement, Tommy's Blues.
Listen, listen, baby dear.
I hear you talking to me.
We've been married about 1 year.
And that's too darn long.
Telling me.
Bon, bah, c'est vraiment bonjour. ça, c'était Sox Wilson et Coot Grant. Ils en avaient profité pour les enregistrer. Ça, on pourra le faire une autre fois. Je suis vraiment désolé, j'ai mal lu mes petits papiers. Voici Tommy's Blues.
Remember them old blues Tommy used to fool around with?
Mesro, how could I ever forget him?
Well, man, let's make him. Hey, Jimmy Blythe Jr., knock us out on the introduction there. On the piano, we'll go from there.
Thank you.
Alors, c'est vraiment le retour au Bayou. Dans notre esprit, ça, c'est assez éloquent, mais pour bien se faire comprendre, c'est un univers végétal. C'est un univers où les gens vivent aussi, où il y a une vie animale, crocodile, insecte, machin. Tout un univers très spécial, très tropical, très chaud.
Très chaud. Et le Bayou, c'est une sorte de réseau inextricable, d'ailleurs.
Oui, c'est inextricable.
Si les gens qui ne connaissent pas le Bayou peuvent se perdre dedans, parce qu'on avance dans des endroits dont on ne sait pas même si c'est large ou si c'est étroit.
Il faut connaître, hein.
Il y a des herbes qui recouvrent absolument tout. Il y a des lentisques. Oui. L'eau, elle est verte.
Oui.
Elle est verte.
On ne sait pas très bien où on va.
Sauf ceux qui connaissent.
Mais ce qui est très important quand on se figure le Bayou, c'est de voir que les racines sortent de l'eau. Et au fond, la représentation mentale
les
du Bayou...
Les racines des arbres.
Oui. La représentation mentale du Bayou de Transposant en musique, c'est qu'ils ont vraiment retrouvé leurs propres racines en faisant ça. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds.
Et alors, le Bayou, c'est tout à fait propre à la Nouvelle-Orléans.
C'est la Louisiane, c'est le delta du Mississippi. Terminer, justement,
oui.
Puisqu'ils sont allés au-delà de leurs racines, on va écouter à la file un morceau qui s'appelle Funky Butt, qui est dédié à l'endroit où jouait Buddy Bolden, le tout premier musicien notoire de la Nouvelle-Orléans, le premier qui émerge dans la mémoire collective. Buddy Bolden, trompettiste légendaire, jouait au Funky Butt. On traduira pas Funky Butt davantage. Et on enchaînera avec un morceau qui s'appelle Delta Mood. On peut pas rêver plus Bayou que ce Delta Mood-là, naturellement. Les voici pour terminer l'émission. Eh ben moi, j'ai passé un bien bon moment. J'espère que vous aussi, chers auditeurs.
Thank you.
C'était La Planèse du Jazz.
À la planète prochaine.